Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler des intoxications alimentaires, ces contaminations de la nourriture ou de l'eau. Si certains signes, son aspect, son odeur permettent de reconnaître qu'un aliment est avarié, dans d'autres cas, eh bien, le produit peut sembler toujours bon à consommer. En termes de contamination, beaucoup de paramètres peuvent entrer en ligne de compte. Cela va de la propreté de la cuisine, du marché, du restaurant, au niveau d'hygiène des personnes chargées des préparations. En cause aussi les conditions de préparation artisanale, industrielle, comme de conservation. Très important également, le respect des dates de péremption. Ces intoxications peuvent être liées à des infrastructures insuffisantes ou de mauvaise qualité, assainissement, eau potable à disposition, équipement et alimentation électrique, transport et réfrigération des produits frais, également à la disponibilité d'aliments frais dans certaines régions plus reculées. Des éléments qu'il n'est pas toujours évident d'identifier. Et aujourd'hui, on va vous proposer donc des conseils pour prévenir ces intoxications comme des repères pour identifier les différents symptômes, comment traiter ces infections digestives, quels sont les risques. On vous donne la parole. On attend vos questions au 33 84 22 75 75 et sur la page Facebook de Priorité Santé. Crampes, nausées, éruptions cutanées, reconnaître les symptômes des intoxications alimentaires, prévenir leurs complications. Pour en parler avec nous, professeur Pascal Crène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt en région parisienne et professeur de nutrition à l'université Paris-Saclay à Versailles. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne du Cameroun le professeur Christian Tseton, gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala. Le professeur Tseton qui est président d'honneur de la société camerounaise de gastro-entérologie. Et puis en fin d'émission, le docteur Catherine Solano, sexologue, répondra à des questions d'auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Manger, un besoin fondamental, un plaisir et parfois un cauchemar quand la cuisine se transforme en nid à bactéries et moisissures. Sur petit écran, ça donne ça avec la voix rageuse du célèbre chef cuisinier, animateur de télé française, Philippe Etchebest.
Je vous vois là, tous les deux. Il est où le cuisinier ou la cuisinière? Je sais pas qui cuisine. Rien n'est rangé, rien n'est structuré. Il y a des poivrons dehors, je vois un avocat dehors, je sais pas pourquoi vous avez ça dehors. Pourquoi vous avez ça dehors?
J'ai pas osé les mettre dans le frigo, vu l'état du frigo.
Ah, ben voilà. Ça m'intéresse. Ça, c'est juste pas possible. J'en ai vu des trucs hein, pas mal, hein, en termes de moisissures avancées. Ben alors là, si ça, vous voyez pas?
Je l'ai vu, mais je l'ai laissé. J'en ai ras-le-bol de tout le temps, moi, nettoyer. Donc, non. Je ne l'ai pas fait.
Oh, j'exagère pas. J'exagère pas. Ça suinte. Mais regarde la gueule des tranches de jambon.
Je dis, il va se faire une mauvaise idée. Voilà. Le pot de crème fraîche pourri, il est là. Le machin pourri, il est là aussi. Donc, voilà.
On continue. J'ai fait qu'un frigo. Un seul frigo. Oh. Non, mais sérieux. Putain, j'ai envie de gerber. J'ai envie de vomir. J'espère que je ne vais pas tomber malade. Hein.
Et on ne vous donnera pas l'adresse. Un cauchemar en cuisine, émission sur la chaîne de télé M6. Le passage en revue peu ragoûtant du contenu du réfrigérateur. Alors bien sûr, une illustration extrême de ce qu'il ne faut pas faire en termes de conservation des aliments. Professeur Pascal Crène, on se demande même d'ailleurs pourquoi ces gens laissent ces choses dans leur frigo. Réfrigération, péremption, conditionnement, on va en parler hein, pendant cette émission. Pour commencer, vous êtes bien sûr médecin, on va poser les choses. Quand les gens pensent intoxication alimentaire, des fois ils font le raccourci avec la gastro-entérite et pourtant ce n'est pas la même chose.
Ce n'est pas obligatoirement la même chose en effet. La gastro-entérite, c'est un terme un peu populaire, on va dire, qui signifie un ennuis digestif essentiellement d'origine infectieuse avec des douleurs abdominales, de la diarrhée et des vomissements. C'est fréquemment lié en effet à un problème d'origine alimentaire ou hydrique, c'est-à-dire une contamination notamment bactérienne ou surtout virale. Mais le terme intoxication alimentaire est beaucoup plus général que ça. En effet, ça peut donner des tableaux de gastro-entérite, comme on vient de le dire, mais ça peut donner des tableaux dermatologiques, c'est-à-dire cutanés, ou neurologiques même, ou autres. Alors là, c'est quand on est en aigu, alors après, en chronique, ça peut être, c'est encore autre chose, mais vous voyez, la gastro-entérite, c'est une des formes possibles de ce qu'on appelle les intoxications alimentaires.
Professeur Pascal Crène, notre sujet du jour, donc ces intoxications, vous avez cité quelques-uns des symptômes, ils sont connus pour la plupart du grand public. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont plus atypiques? On a parlé diarrhée, vomissement, éruption cutanée, il y a des choses qui sont moins connues?
Ah bah oui, il y a des choses qui sont moins connus dans le cadre de certaines formes d'intoxication alimentaire, soit d'origine bactérienne, enfin infectieuse, on va dire, microbiologique, soit d'origine chimique, des tableaux neurologiques, par exemple. Alors, on ne voit plus tellement ça sous nos contrées, en tout cas, mais il y a l'exemple classique du botulisme, qu'il y ait une prolifération d'une bactérie particulière, qui produit une toxine et qui donne des tableaux neurologiques extrêmement sévères.
Et que l'on trouvait en cas de mauvaise conservation, oui. Par exemple des boîtes de conserve.
Voilà, exactement. Et la santé publique a fait beaucoup de progrès, et les services vétérinaires aussi, parce qu'il y a une inspection obligatoire à la fois au niveau de, par exemple, des grandes surfaces et en restauration collective. Et tous ces conseils d'hygiène sont maintenant, je dirais, appliqués, a priori connus, en fonction des conditions économiques et socio-économiques des gens. Et donc, ça ne se voit plus.
Ça ne se voit plus. Ça dépend en même temps des régions, parce que ce n'est pas forcément appliqué partout de la même façon dans le monde, hélas. Non. Est-ce que les symptômes et leur gravité, ils sont directement liés à la nature de l'aliment consommé ou à la nature de l'agent pathogène? En gros, est-ce qu'on est plus malade en mangeant de la viande avariée qu'en mangeant des légumes avariés?
En pratique, c'est le germe qui compte.
C'est le germe qui compte.
Alors, quand je dis le germe, c'est le germe et sa virulence, parce que dans un germe donné, on parle des bactéries, hein, on ne va pas parler du reste là, peut-être tout de suite. Ça dépend de la quantité, ça dépend de sa virulence. Et ça dépend aussi, c'est un facteur extrêmement important, de la réceptivité de l'hôte, c'est-à-dire de sa condition physiologique ou pathologique. Vous avez des populations qui sont plus fragilisées. Bah, c'est le cas évidemment pour les nouveau-nés, hein, parce que les nouveau-nés peuvent se déshydrater très rapidement, c'est bien connu en pédiatrie. C'est le cas aussi des enfants, c'est le cas des personnes âgées, et c'est le cas de manière plus générale des personnes qui ont, comme on dit aujourd'hui, je pense que le terme est maintenant bien popularisé, on va dire, des comorbidités diverses et variées, ou de l'immunodépression.
Alors, vous avez cité quelques-uns de ces germes, on a bien compris. Il y a les bactéries, mais pas seulement. Tout à l'heure, dans l'extrait un petit peu caricatural, je vous le concède, il y avait des moisissures. Ces moisissures, c'est quoi? C'est des champignons?
Oui, ce sont les champignons, oui. Alors, ces champignons pathogènes, dans le cadre d'une contamination alimentaire ou hydrique, c'est pas le plus commun. C'est pas le plus commun. Alors, c'est sûr que chez les personnes qui ont des problèmes nutritionnels ou des problèmes immunitaires ou des traitements qui font baisser l'immunité, par exemple en hématologie ou en cancérologie, ça peut être un vrai problème, parce qu'on peut décrire chez ces personnes des infections à champignons systémiques, comme on dit, c'est-à-dire générales, qui sont potentiellement de très haute gravité. Enfin, ce n'est pas quelque chose de très fréquent.
En cuisine, est-ce que certains modes de préparation présentent davantage de risques que d'autres? Là, je pense, c'est vrai qu'on n'en consomme pas beaucoup dans les pays tropicaux, des tartares, des sushis, des ceviches, des carpaccios. Bref, la cuisine crue, il y a vraiment des contextes où il faut éviter.
Disons que pour des personnes qui ont des fragilités particulières, c'est sûr que il y a un risque un peu plus important. Il faut savoir une chose, c'est que si on est dans une perspective darwinienne, c'est-à-dire l'évolution biologique qui fait que c'est les plus aptes, entre guillemets, qui, au sens biologique du terme, hein, je parle, qui survivent, l'espèce humaine a pu arriver jusqu'à aujourd'hui, depuis la préhistoire, c'est parce que, malgré la pression infectieuse très forte dans l'environnement, dans le milieu, le système immunitaire, notamment digestif, ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote, a évolué et a permis de s'adapter. Parce que sinon, ça tout le monde serait mort depuis longtemps.
Mais on s'est endurci, mais peut-être pas de la même manière partout ou partout sur la planète.
Alors, alors certainement, en fonction des conditions, notamment infectieuses. La pression infectieuse, très, très, très importante dans l'explication de l'évolution de l'espèce humaine. Et aussi en fonction des pathologies. Et en fonction aussi de son background génétique.
Alors, évidemment, les intoxications, ça peut aussi être lié à des conditions d'hygiène. Hein. Il n'y a pas simplement l'environnement. Il peut y avoir un problème de conservation, de connaissance des bons moyens de conservation. C'est vrai qu'on peut faire aussi de la pédagogie sur ce plan, professeur Pascal Crène, avec des règles assez simples à respecter, mais qu'il est toujours bon de rappeler.
Ah ben, c'est clair. Hein. Vous savez que dans l'augmentation, enfin l'amélioration de l'espérance de vie, la diminution des morbidités, c'est-à-dire des pathologies, et notamment infectieuses, bien plus que la médecine, ce sont l'amélioration de l'hygiène au sens général et au sens politique du terme, finalement. L'assainissement, vous en parliez tout à l'heure, qui est le facteur majeur explicatif. Bon. Et notamment la réfrigération des aliments au XXe siècle, quoi, finalement, et la congélation, etc., est un facteur majeur de l'amélioration de la diminution des infections d'origine alimentaire, des intoxications alimentaires, comme on dit. Et donc, la réfrigération, le lavage des aliments, est un facteur majeur. De progrès de santé publique. Hein.
Conserver, respecter une bonne hygiène, des ustensiles, du plan de travail. On entend souvent parler du respect de la chaîne du froid. Qu'est-ce que ça veut dire?
Le respect de la chaîne du froid, ça veut dire que à partir des productions alimentaires, animales ou végétales, et jusqu'à la consommation, les aliments sont à une température définie, ne sont pas mis à température ambiante, puis remis à température, moins 4, par exemple, à 4 degrés, si c'est au réfrigérateur, et ceci de manière répétée. Parce que sinon, vous avez la possibilité, au moment de la remise en température ambiante, d'avoir des contaminations par des germes de l'environnement. Et donc, qui sont un petit peu trappés, si vous voulez, dans la nourriture, dans l'aliment, et puis qui peuvent se développer, et qui sont notamment chez les personnes qui ont des facteurs favorisants, potentiellement pouvoir faire développer une pathologie, notamment digestive, gastro-entérite au sens très large du terme.
Alors, une illustration, justement, on parle de la contamination des aliments, mais aussi contamination de l'eau. Premier témoignage tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Et un auditeur en ligne d'une région d'où on nous appelle plutôt rarement, la Laponie suédoise. C'est là qu'on vous retrouve. Ismaël, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Ismaël, vous êtes natif de Côte d'Ivoire. Vous êtes donc installé dans ce pays des aurores boréales. Ça fait rêver, même si on va échanger sur des questions très terre à terre avec vous. Ismaël, alors ce que vous constatez, c'est lorsque vous rendez en voyage en Afrique, ça ne se passe pas toujours bien du côté de vos intestins. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, ça ne se passe pas tout bien parce que quand je voyage en Afrique, normalement c'était en 2011, j'ai voyagé de la Côte d'Ivoire au Bénin. Et là-bas, j'ai commencé à boire l'eau de robinet. Là, ça a été un cauchemar. J'ai fait la diarrhée plus d'une journée ou deux jours comme ça. Je me sentais faible. Oh, je me suis dit vraiment, c'est pas facile avec l'eau. Bon, de là encore, j'ai voyagé pendant Guinée-Équatoriale et Rebelote. C'est la même chose encore avec l'eau de robinet. J'ai fait la diarrhée pendant deux jours. Je me sens faible. Oh, je n'ai plus rien à faire.
Ismaël, Ismaël, excusez-moi, aujourd'hui vous vivez dans l'extrême nord de l'Europe. Vous avez vécu longtemps pendant votre jeunesse en Afrique?
Oui, je suis né en Côte d'Ivoire et grandi en Côte d'Ivoire.
Et à ce moment-là, vous buviez au quotidien l'eau du robinet, il n'y avait pas de souci?
Non, pas de souci.
Et puis vous avez goûté l'eau pure des glaciers du nord, et depuis que vous retournez en zone tropicale, là ça se complique.
Ça se complique. Quand je suis venu en Suède, je me suis préparé psychologiquement, puisque chaque fois quand je change de pays, oh, j'ai la diarrhée. Donc, arrivé ici, après deux mois, je demande des amis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu de problème. comme on appelle, je n'ai pas eu de diarrhée, ni rien, de l'eau.
J'ai une question qui va peut-être paraître un petit peu naïve. Pourquoi, quand vous retournez justement en zone tropicale, vous ne faites pas un petit peu comme les Occidentaux quand ils voyagent au sud? Vous ne vous limitez pas à boire de l'eau en bouteille?
Oui, au début, j'ai pris l'eau en bouteille, mais je devais rester 3 mois.
Ouais.
Bon, je ne peux pas à chaque fois me promener avec l'eau en bouteille pour aller visiter des parents et boire l'eau de trucs.
C'est vrai que c'est compliqué, mais peut-être que ça vous éviterait de faire des allers-retours express aux toilettes en permanence.
Mais s'il y a des conseils, ça peut n'arrange pas les choses. Je crois que c'est toute la diaspora. Mm-hmm. Je ne suis pas parti partout avec l'eau de robinet pendant 3 mois et boire seulement l'eau minérale plutôt.
Ouais, voilà, c'est compliqué. Ismaël, justement, alors ce que vous souhaitez, c'est des conseils de notre invité, le professeur Pascal Crène. Quoi faire en gros pour boire l'eau du robinet sans être malade? J'ai bien peur que la réponse, professeur, soit assez complexe.
Hein. Oui, merci de votre intervention, parce que c'est un vrai sujet. Mmh. Et plusieurs réflexions là-dessus. Pour une personne occidentalisée, on va dire française, qui va dans un pays tropical, Afrique, Sud-Est asiatique, etc., Inde, on sait très bien que des troubles digestifs, au début en tout cas, sont quasiment constants, un type de diarrhée.
Appelé ça la tourista.
Et on a appelé ça notamment la tourista. Mm-hmm. Alors, sous le terme tourista, il y a... Vous avez deux grandes entités. Hein. Vous avez une entité qui est une entité vraiment infectieuse avec des germes. Mmh. Alors, le plus souvent, on ne va pas les chercher parce qu'il faut faire des analyses de sel. Bon. Mmh. Et qui peuvent nécessiter un traitement antibiotique quand c'est une bactérie spécifique. Ou sinon, des perturbations de ce qu'on appelle, vous en avez dit un mot là tout à l'heure, le microbiote, c'est-à-dire la flore fécale, qui est très dépendante de l'alimentation et très dépendante finalement de son environnement. Ça, c'est une chose. Et donc, pour une personne venant d'une zone tropicale et allant au nord, hein, parce que c'est ça, hein, et finalement, là aussi, il y a une adaptation de sa flore digestive, de son microbiote. Et donc, et quand finalement la personne revient dans son pays natal ou à côté, finalement, il est désadapté en fait. Donc ça explique en grande partie les problématiques digestives de type diarrhée, gastro-entérite, etc., au moins initiales. Alors concernant l'eau, c'est sûr que on revient au problème qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la qualité et la sécurité de l'eau, les contrôles dans le pays où on va.
Donc là, est-ce que Ismaël pourrait se contenter par exemple de prendre ces petits cachets qu'on met dans l'eau préparés la veille, etc., pour après boire? J'ai pas donné de nom de marque, mais beaucoup d'entre nous les connaissent. Et puis il se prépare 3 litres, il se le met dans des bouteilles avec de l'eau du robinet et il se contente de ça, ou même là il risque d'avoir des complications intestinales?
Écoutez, complications, c'est un bien grand mot. C'est des ennuis. C'est pas vraiment de critère de gravité, sauf s'il y a un germe spécifique, ou sauf si, je vous l'ai dit tout à l'heure,
il y a une fragilité
spécifique. Hein. Notamment, toutes les pathologies de l'immunité, il faut faire attention, VIH, tout ça. Bon. Oui, tout à fait, ça peut tout à fait. Et puis plus, ou sinon, l'eau minérale ou minéralisée. Mais sinon, il n'y a pas tellement... Ou des traitements symptomatiques, prophylactiques,
il n'y a pas de solution miracle. Sinon,
miracle, non.
Ce serait une très, très belle nouvelle pour la santé publique. Voilà. On vous remercie beaucoup, Ismaël, et merci de nous avoir appelés. Bonne continuation au pays du soleil de minuit. D'autres questions, d'autres témoignages. Et vos réponses, bien sûr, professeur Crène. On ira aussi au Cameroun donner la parole à l'un de vos confrères juste après ce titre de Kumbia Chichara Chiquiline.
¡Vamos!
Priorité Santé sur RFI, on parle des intoxications alimentaires, prévention et conseils. Toujours avec nous, le professeur Pascal Crène, hépato-gastro-entérologue à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt. Alors professeur, quand l'intoxication alimentaire est là, on a parlé des symptômes en première partie d'émission, qu'est-ce qui se passe en termes, non pas de traitement, mais là d'alimentation? Quelle conduite observer? Qu'est-ce que le médecin conseille à son patient?
Ah ben, d'abord, ça dépend des symptômes. Alors, très souvent, en fait, ce sont des symptômes, on a dit, digestifs, c'est-à-dire des douleurs abdominales et de la diarrhée. Je crois qu'il y a deux conseils principaux, hein, c'est la diète, entre guillemets, c'est-à-dire, et en fait, spontanément, les gens
n'ont plus envie de manger.
N'ont plus envie. Et notamment, on sait très bien que dans ces contextes-là, il y a des produits comme les produits laitiers, par exemple, le lait, qui sont particulièrement pas conseillé. Bon. Ça, c'est clair, mais ça, c'est, je dirais, c'est empirique. Et puis, la deuxième chose, c'est qui est la chose la plus importante, notamment quand on est dans une zone tropicale ou de manière générale quand il fait chaud, c'est l'hydratation. Et une hydratation avec un, si possible, alors bien sûr avec une eau qui est
propre. Saine.
Ça, c'est certain. Et éventuellement une eau salée. Ou salé sucré. Vous savez peut-être que l'OMS préconise des solutés de réhydratation, notamment pour la pédiatrie.
On a ça effectivement quand les bébés ont des gastro, on va même en pharmacie des fois acheter des petits sachets.
Tout à fait.
Mais on peut faire sa solution maison. On va dire si on a une bouteille d'eau d'un litre, on met quoi? Une demi-cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de sel.
C'est assez empirique, c'est un peu de sel, un peu d'eau.
Voilà. D'accord, et comme ça,
notamment
ça permet,
quand
on va dire,
il fait très chaud.
Pour être schématique, je ne suis pas médecin, vous l'avez bien compris, ça permet à l'eau de se fixer, c'est quoi?
En fait, ça améliore l'absorption au niveau intestinal.
Alors, on va prendre une question d'auditeur. C'est Patrick qu'on retrouve maintenant en ligne de Kigali, au Rwanda. Patrick, bonjour.
Oui, bonjour Caroline.
Alors vous Patrick, depuis une mauvaise expérience après avoir mangé au restaurant, vous êtes devenu un petit peu méfiant. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Ah, merci beaucoup de pouvoir me passer la parole. Et je vous remercie pour l'organisation de cette émission.
De rien, on remercie toute l'équipe, Ophélie, Assetou et Didier. Et justement, vous êtes allé au restaurant, ça s'est mal passé, c'était quand?
C'est vers les années 2008-2009. Souvent, nous avions l'habitude d'aller dans des restaurants, mais ces restaurants étaient dans des milieux où il n'y avait pas d'eau potable. C'est dans la République démocratique du Congo, dans le territoire de Nyiragongo. Et c'est un territoire qui n'a jamais eu d'eau potable depuis sa création. Et que donc, on y mangeait des aliments. Et j'imagine les aliments qu'on mangeait, les gens qui n'ont pas d'eau potable, ils puissent de l'eau dans des puits. Et depuis ce jour-là, vraiment, nous avons eu beaucoup de conséquences, entre autres, et tel que je t'avais dit, il y avait eu les problèmes de l'amibe jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est les conséquences qui me suivent de temps en temps.
Ça veut dire que depuis près de 15 ans, Patrick, vous avez, on va dire trivialement, mal au ventre, depuis près de 15 ans?
Oh, vraiment, il y a plus de 15 ans.
Ouais. Et des amibes, alors on parle des intoxications alimentaires. Je me tourne vers le spécialiste de tout ce qui concerne les pathologies digestives, professeur Pascal Crène. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Patrick?
Alors, les amibes, c'est pas que d'origine alimentaire. Vous avez deux types d'amibes. Vous avez des amibes qui sont des amibes pathogènes et qui peuvent donner des maladies digestives sévères et hépatiques aussi, ou générales.
Et qui sont quoi, des parasites?
Ce sont des parasites.
Au microscope, quand on regarde, ça ressemble à quoi?
Ce sont des tout petits parasites, en fait. Ça ressemble à un parasite de type amibe. Alors, je ne suis pas à la biologie, c'est les parasitologues qui nous font ça. C'est un diagnostic assez facile sur des analyses de sel, en fait, en pratique.
Et il y a des moyens de s'en débarrasser? Parce que là, on voit que Patrick est complètement accroché
alors,
à ça.
Oui, alors, non, mais justement. Donc, ces amibes se traitent avec des antibiotiques spécifiques, qu'on appelle flagyles, enfin, imidazolés. Bon, ça marche très bien, y compris dans les formes sévères, parce qu'on peut avoir des atteintes hépatiques, hein, donc, qui sont assez, qui peuvent poser vraiment souci. Et à côté de ça, vous avez des amibes dits non pathogènes, sont des germes finalement quasiment commensaux, c'est-à-dire de parasitisme n'entraînant pas de pathologie ou des pathologies mineures, qui peuvent aussi se traiter un peu avec les mêmes, avec les mêmes antibiotiques.
Alors, la question que je vais adresser à Patrick, c'est est-ce qu'il a consulté un médecin ? Est-ce que depuis qu'il est tombé malade, il a pris des médicaments, des antibiotiques ?
Oui, et souvent on me prescrivait les flagyles et les vancomycines si j'ai une bonne mémoire. Je les consomme, mais après un certain moment, vraiment, j'ai toujours du mal. Donc, de temps en temps, après une année ou deux ans, je dois consulter un médecin. Bon, moi, je pense que peut-être c'est une conséquence parce que notre territoire, jusqu'à maintenant, nous sommes obligés soit de consommer l'eau non potable, et on mange les légumes. Par exemple, on va suivre les légumes ou les aliments avec l'eau potable. Moi, j'imagine comment est-ce que nous pouvons éviter cela au moment où nous sommes dans des milieux reculés.
C'est compliqué parce que, en fait, vous avez eu une infection il y a 15 ans, mais depuis, vous réinfectez régulièrement. C'est ça la question.
Il y a une chose très importante sur, sur ce qui a été dit là-dessus. C'est qu'on connaît depuis, depuis 1954. Pour les en France, parce qu'en 1954, vous savez que l'armée française est partie d'Indochine suite à la défaite de Dien Bien Phu. Et les médecins militaires, notamment, ont vu beaucoup d'ex-soldats français pour des troubles digestifs secondaires ou considérés comme étant secondaires à des amibiases. En fait, donc maintenant on en voit moins, évidemment, 54 c'est un peu loin, mais quand même, à partir de ce moment-là, a été décrit en fait une pathologie qu'on appelle les colites post-amibiennes, qui sont en fait des troubles fonctionnels intestinaux post-inflammatoires. Et en fait, fréquemment, les personnes qui ont eu des amibes, je dis, si on en retrouve, il faut les traiter. Mais très souvent, on n'en retrouve plus. En fait, ce sont des troubles fonctionnels. Qui se sont installés, post-inflammatoires, et qu'il faut traiter comme des troubles fonctionnels intestinaux.
Alors, merci beaucoup, Patrick, pour cette question très intéressante. D'autres auditeurs en ligne. Et je vous propose d'y répondre, professeur Pascal Crène, en compagnie de l'un de vos confrères, direction le Cameroun.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Professeur Christian Dzeton, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital général de Douala. Alors on a parlé du restaurant, problème d'hygiène à la maison. J'imagine que dans le contexte camerounais, vous vous retrouvez complètement dans ce qu'on vient de décrire depuis le début de l'émission.
Absolument, absolument. Il faut dire que chez nous, la plupart des intoxications alimentaires, avec cette frontière, comme mon collègue vient de signaler, avec les problèmes microbiens, c'est assez fréquent. Surtout du fait que nous avons un problème de maîtrise de l'eau, de l'hygiène de l'eau et de l'hygiène alimentaire en général. Donc c'est ça qui crée le plus d'intoxication alimentaire chez nous. Il y a des gens qui ne peuvent s'alimenter que dans des réseaux un peu parallèles qu'on appelle ici des tourneaux d'eau, c'est-à-dire de l'alimentation en public. Et comme ils tournent le dos à la rue, c'est pour ça qu'on appelle ça des tourneaux d'eau, dont la qualité des aliments n'est pas optimale. Et donc, surtout en matière d'hygiène, et donc souvent, au sortir de là, les gens ont des intoxications alimentaires. Et puis, nous avons l'habitude d'organiser chez nous de très grandes fêtes avec des repas qui ont parfois traîné sur les plateaux pendant quelques heures. Et donc, après, la conservation n'est pas garantie. Il y a des accumulations microbiennes dedans. Et les gens en sortent parfois avec des intoxications alimentaires où le côté microbien plus que le côté chimique est prédominant. Bon, le côté chimique, nous avons aussi l'habitude de voir des gens qui, dans ces cérémonies, font de gros mélanges alimentaires, de choses qui sont difficiles à digérer. Et donc, il y a un mélange du côté microbien et du côté chimique qui font que les résultats sont parfois assez spectaculaires. Mais en gros, c'est un peu le même problème que dans tous les autres pays, c'est-à-dire l'hygiène des aliments, la conservation des aliments, et puis la non-maîtrise de l'eau. L'eau de consommation est parfois assez difficile. Il y a que ce soit en ville ou en campagne, on ne maîtrise pas bien l'hygiène de l'eau. Des gros efforts sont faits par nos États, mais il y a encore beaucoup de choses à faire.
Est-ce que vous avez l'impression que la population n'est pas vraiment sensibilisée, en gros, que les gens se disent « Moi, j'ai le ventre solide, je suis à l'abri de ce genre d'intoxication, parce que finalement, je suis africain, je peux manger de tout, tout passera ».
Oui, je pense qu'on ne peut retenir cela que pour des gens qui ne sont jamais passés par là. Parce que les gens qui disent que le ventre de l'Africain a des filtres particuliers, etc., dès qu'ils ont été victimes d'une intoxication alimentaire qui est parfois assez bruyante, ils arrêtent de dire ce genre d'affirmation qui est dénuée de tout fondement. Donc, les gens sont sensibilisés. Mais je vous ai dit que l'alimentation dans des milieux un peu informels, c'est plus en rapport avec les moyens financiers. Ben, les gens sont obligés de s'alimenter par là. Et donc, du coup, ils sont exposés. Mais sinon, le reste de la population est sensibilisé. Mais il faut dire quand même que même parfois, certains restaurants de place, ben, on s'en sort, comme l'auditeur de tout à l'heure, on s'en sort avec une intoxication alimentaire.
Ça ne dépend pas forcément de la facture qu'on va payer à la fin.
Absolument, absolument. Je pense qu'il faut dire que dans nos pays, la frontière avec, j'ai entendu mon collègue parler de botulisme et tout ça, chez nous, la frontière avec le choléra n'est pas loin. Donc, de temps en temps, la maîtrise de l'eau et tout ça fait que parfois, on glisse vers le choléra, donc je crois que c'est une pathologie qu'il faut considérer sérieusement dans nos pays.
Extrêmement sérieusement. Alors, des cas concrets, on part pour la RDC, l'Est, Goma, avec en ligne Dieudonné. Dieudonné, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour le professeur.
Alors, Dieudonné, vous êtes à l'occasion d'un déplacement dans la province du Kassai, que vous êtes intoxiqué. En mangeant quoi, précisément ?
D'accord. En fait, nous sommes partis dans une mission humanitaire. Nous sommes arrivés à Chikapa. On a fait encore 200 km de la ville. C'était vraiment un milieu très enclavé. Nous sommes partis avec un stock de nourriture et également de l'eau. Nous sommes partis avec ça. Arrivé, la mission devrait prendre des semaines, mais tout d'un coup, il y a eu quelques difficultés. Nous sommes allés à la troisième semaine. Alors, tout notre stock, le stock était terminé déjà à la deuxième année, à la deuxième semaine. La troisième semaine, on était desséché en fait. Et l'eau et la nourriture, alors nous étions obligés de tout acheter là-bas et de l'eau de la source qui n'est pas même pas propre. Alors, on a acheté du poisson qu'on cuit dans la paille. On appelle ça chez nous maboké là-bas.
D'accord.
C'est presque la première fois que je consomme ça. Parce qu'ici, chez nous, au Goma, on ne consomme pas ça. Alors, arrivé là-bas, jusque quand nous avions acheté le maboké, le poisson cuit dans la paille, après quelques heures, 3 à 2 heures comme ça, on a eu toute l'équipe avec qui nous étions ensemble, on a eu vraiment de maux de ventre et puis ça nous a troublé en fait. On a pu passer des jours sans travailler.
Toute l'équipe était malade quoi. Tout le monde est tombé malade.
Oui. Tout le monde est tombé malade.
Et vous avez su finalement si c'était le poisson ou si c'était l'eau qui vous avait rendu malade?
Après quelques enquêtes, nous avons pu remarquer que c'était le problème des poissons, parce que le poisson là-bas, parfois il y a déjà des mauvaises volontés, le conditionnement n'est pas bon. Ils peuvent cuire ça aujourd'hui et ça peut faire 2-3 jours et ils continuent à le vendre tellement que ça y est dans le paquet, on ne sait pas, on achète toujours comme ça.
Vous achetez comme ça quoi, au marché? Vous savez s'il y a des réfrigérateurs ou pas du tout?
Oui, dans la rue. Non, il n'y a pas de courant, il n'y a rien.
Ah oui, ben on imagine un poisson gardé 3 jours en plein air au climat du Kassai, il a le temps de voir développer un ou deux germes. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes complètement remis de cette mauvaise aventure?
Pas complètement, parce que jusqu'à aujourd'hui, je souffre vraiment de l'amibe également.
Également, mais ça c'est peut-être un autre contexte, une autre mission que vous avez effectuée. En tout cas, merci beaucoup Dieudonné pour ce témoignage. Ce qu'on voit justement, professeur Christian Zeton, c'est qu'il peut y avoir des symptômes, et parfois des symptômes qui se prolongent dans le temps. On l'a entendu avec deux de nos auditeurs. Les patients, ils font comment pour se soigner? Ils ont recours à l'automédication?
Bon, alors, le premier point par rapport aux symptômes qui traînent, effectivement, mon excellent collègue a insisté là-dessus, il y a des états séquelles, on a bien connu les soldats avec des amibiases, etc., mais la plupart du temps, je pense actuellement, ce sont des troubles fonctionnels post-infectieux, comme il a dit tout à l'heure, qu'il faut prendre en compte comme ça. Alors, sinon, sur le plan du traitement, malheureusement, il y a beaucoup d'automédication. Les gens, dès qu'ils ont un petit embarras comme ça, ils prennent des tas de médications ou bien ils vont chez le guérisseur du coin. Et donc, je crois que le conseil qu'il faut donner aux gens, puisque des intoxications alimentaires peuvent débuter très simplement, mais se compliquer, Je pense qu'il faut au moins voir un personnel médical, même si c'est un infirmier, sinon un médecin, parce que l'automédication peut court-circuiter des choses et puis on arrive un petit peu tard dans ces cas-là.
Aller au centre de santé, c'est la meilleure chose à faire.
Absolument, c'est la meilleure chose à faire et tout ça.
Et pas acheter des médicaments dans la rue, en tout cas. Professeur Pascal Crène, c'est vrai que dans certains contextes, ce n'est pas toujours évident. Hein, quand on vit toute sa vie dans un contexte tropical, on ne va pas du jour au lendemain ne plus jamais manger tel poisson parce qu'il n'y a pas de frigo. C'est la réalité. Mais quand on ne connaît ni la provenance, on a entendu tout à l'heure dans le témoignage de Dieudonné, il avait matière à se méfier, finalement. Il a été confiant, il l'a regretté. Comment est-ce qu'on agit, finalement? Est-ce qu'on n'est pas condamné à tomber malade?
Je vous ai dit une chose qui est une chose importante tout à l'heure, c'est que si les populations ont survécu, alors qu'il y a avant, on va dire 1950, bon, même peut-être un peu avant, mais les conditions d'hygiène n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui. Bon, elles ont tendance, évidemment, en fonction des conditions socio-économiques, à se mondialiser, à s'améliorer. La pression infectieuse et la réponse immunitaire, et donc notamment pour le digestif, c'est la flore, c'est le microbiote, a fait que, finalement, l'espèce et les gens se sont adaptés. Et donc, en fait, pour les personnes qui vivent dans un contexte où la pression infectieuse est ce qu'elle est, et c'est notamment vrai en Afrique tropicale, bon, évidemment, ou dans le sud-est asiatique, en Inde, etc. Finalement, les personnes sont adaptées, ce qui n'empêche pas que si la charge toxique, on va dire, au sens très large, qu'elle soit bactérienne ou autre, est importante, finalement, ça se désadapte, et voilà. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je pense qu'en effet, il n'y a pas le ventre de l'Africain, c'est une espèce de mythe. Tout le monde peut tomber malade. Vous savez, quand la charge infectieuse est telle qu'à un moment, vos systèmes de contre-régulation, et notamment votre système immunitaire, est dépassé. Donc, c'est toujours la même chose. Ce sont les populations très fragiles qui peuvent payer le prix. Et notamment, vous savez qu'il y a toujours une mortalité infantile, notamment en Afrique. Alors, je ne vais pas les chiffres, ça a diminué, mais ça reste quand même non négligeable. Et notamment de diarrhées aiguës infectieuses alimentaires.
En tout cas, même si on n'a pas les chiffres, une certitude, c'est que les infections intestinales, c'est la première cause de mortalité chez les bébés. Mes aventures, justement, quand on mange des choses pas forcément ni fraîches ou qui présentent des agents pathogènes, toujours la RDC, le témoignage de grâce à Mbujimaï qu'on essaye de joindre. Comme on n'arrive pas à l'avoir tout de suite, je vais juste lire son témoignage à Grâce. Après être allé au resto, j'ai ressenti des crampes seulement 15 minutes plus tard. J'ai été pris de vomissements, de diarrhée. Et comme je suis infirmier, j'ai compris que c'était une intoxication alimentaire. Et même s'il est infirmier, Grâce, c'est ce qu'il explique, il ne savait pas vraiment quoi faire pour ne pas aggraver cette situation. Professeur Christian de jetons. Un auditeur qui nous écoute, qui dit voilà, je me suis intoxiqué, je rentre chez moi, on va dire je suis malade comme une bête. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi un petit peu le réflexe une fois qu'on rentre à la maison?
Ben, je pense que la première chose à faire, c'est de bien s'hydrater. Et si ça ne passe pas, bon, je vous ai dit que la plupart des gens ont toujours dans leur pharmacie des tas d'argile, de métronidazole, etc. Ils se dépêchent de prendre ça. Bon, parfois, ils n'ont pas tort. Mais je pense que l'hydratation, dans un premier temps, est quelque chose d'important à faire. Et puis, si ça ne passe pas, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de voir un centre de santé, etc.
Par rapport à ce qu'on a dit à l'instant avec le professeur Pascal Crène au sujet de la vulnérabilité des très jeunes enfants à ces infections digestives, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, professeur Dzeton, dans le contexte camerounais?
Alors, dans le contexte camerounais, je crois qu'il faut insister pour ce qui est du très jeune enfant ou des nourrissons sur la qualité de l'eau. Parce que, comme je vous ai dit, la non-maîtrise de la qualité de l'eau est un problème important qui doit expliquer la plupart de ces infections à ces âges-là. Donc, si on peut essayer d'utiliser que de l'eau minérale pour ces âges-là, je pense qu'on va lutter contre beaucoup de ces maladies. Quand l'enfant commence à s'alimenter de façon comme les adultes, etc., bien sûr, on retombe dans le même contexte que chez les adultes et il faut faire attention à la conservation des aliments, comme les gens du Congo vous ont dit tout à l'heure, on a tous des problèmes de conservation, d'électricité, qui font que les aliments se détériorent extrêmement vite. Et là, il faut encore faire attention aux nouveau-nés.
Parce qu'évidemment, il y a le problème, il y a des gens qui n'ont pas l'électricité, puis il y a des personnes qui ont l'électricité, y compris dans des très grandes villes. Il y a ce qu'on appelle le délestage, les coupures d'électricité. Oui. Et c'est vrai que là, tout ce qu'il y a dans le frigo, si ça dure 5-6 heures, ben, ça se détériore.
Ça se détériore et puis tant que ce soit l'adulte ou l'enfant, ben, il y a de gros risques. Et je crois qu'il faut profiter pour insister encore une fois que dès que ça n'est plus clair, centre de santé.
Centre de santé. Est-ce que vous disiez aussi tout à l'heure par rapport aux préventions, par rapport aux infections de l'eau pour les tout-petits, ben, ça permet aussi tout à fait de comprendre les préconisations de l'Organisation mondiale de la santé en termes d'allaitement maternel.
Exactement, exactement, madame, exactement.
Parce qu'il faut avoir de l'eau très propre pour mettre dans le biberon lorsqu'on ne peut pas allaiter son bébé. Bien sûr, ça peut arriver, mais quand ça arrive, impératif de faire bouillir cette eau et de la refroidir avant de le donner au bébé.
Très bien, madame, exactement. Bon. Je profite pour dire bonjour à mon collègue que je ne connais pas, mais comme on est tous gastro, on se reverra sûrement.
Merci. Après le
COVID. la grande famille de la gastro-entérologie. C'est vrai qu'avec la pandémie, pour l'instant, pas très simple de traverser les frontières pour partager.
Non, mais il y a la visio.
Oui, mais ce n'est pas la même chose.
D'accord.
Alors, justement, d'autres messages que vous voulez faire passer. On imagine quelqu'un, une famille qui va préparer une cérémonie, un grand banquet. On sait que ça arrive souvent pour les meilleurs événements, mais aussi pour des événements plus tristes. Ça va du mariage aux funérailles, aux naissances. Professeur Christian Dzeton, qu'est-ce que vous diriez pour éviter que cette belle fête, qu'elle soit gaie ou triste, se termine par une catastrophe, une intoxication généralisée ?
Alors, le premier conseil, c'est d'éviter de faire des mélanges un peu compliqués, comme on voit souvent les gens faire quand ils se servent. Et puis, essayer d'éviter tout ce qui est plat en sauce, vinaigrette, parce qu'on ne sait pas combien de temps ça a traîné sur les paillasses ou sur les étals de service. Il faut essayer d'éviter tout ce qui est sauce, tout ce qui est vinaigrette. Et parfois, il y a des aliments qui moussent un peu. C'est un bon signe pour essayer de les éviter. Et je pense qu'à ce moment-là, si on essaye de préférer tout ce qui est un peu friture, dont éviter les sauces et tout ça, on peut s'en sortir à bon compte. Ceux qui mélangent et qui ne font pas attention à l'aspect visuel même déjà des aliments s'exposent à des intoxications alimentaires.
On vous remercie infiniment. C'est très concret aujourd'hui dans Priorité Santé, mais c'est bien aussi. Merci beaucoup, professeur Christian Dzeton. Vous êtes également le président d'honneur de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Question qui s'impose, professeur Dzeton, vous suivez la CAN ?
Oui, bien sûr. Bon. J'espère qu'on va la gagner.
Ça m'étonne vraiment. Comme ma vie, un Camerounais qui défend son équipe, c'est quelque chose qui m'épate. On vous remercie aussi infiniment d'avoir répondu à notre invitation, professeur Pascal Crène. Je vous demanderai pas si vous suivez la CAN. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions dans Priorité Santé aujourd'hui. Et maintenant, dans Priorité Santé, on vous retrouve, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Et on va répondre donc à une question Facebook d'une auditrice. Constance nous a écrit, nous a envoyé ce message sur la page de l'émission. Constance, elle a 27 ans et elle explique qu'elle fréquente son amie depuis maintenant 4 ans. Elle souhaitait préserver sa virginité, mais leur activité sexuelle, dans un premier temps, se limitait à des caresses, y compris des caresses sexuelles profondes, des baisers. Le compagnon de Constance s'est plaint, il lui a dit qu'il était assez frustré. Et elle a accepté d'avoir un premier rapport sexuel avec lui. Elle n'a ressenti aucune douleur, elle n'a constaté aucun saignement. Et son amie, du coup, a pensé qu'elle lui avait menti. Ils ont continué à avoir des rapports sexuels. Et aujourd'hui, Constance demande justement, elle vous demande, docteur Catherine Solano, pourquoi elle n'a jamais saigné. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Eh bien, je peux lui dire que d'abord, c'est très souvent qu'il y a des jeunes femmes qui ne saignent pas la première fois. Et très souvent aussi, les jeunes femmes et les jeunes hommes pensent que la première fois, une femme saigne obligatoirement et que c'est une preuve de virginité. Or, c'est totalement faux. On l'a déjà dit, on le répétera encore des années, mais vraiment, c'est important. Donc, avoir un hymen intact ou pas, c'est une question d'anatomie. Ça, on est fait comme ça. Et il y a des femmes qui naissent sans hymen et donc elles ne vont jamais saigner à cause d'une déchirure de l'hymen puisqu'elles n'en ont pas. Et d'autres filles possèdent un hymen mais qui a une ouverture très large et donc elles ne vont pas saigner non plus la première fois puisque le sexe masculin peut très bien passer sans déchirer l'hymen vu que l'ouverture est déjà suffisamment large. Et puis, il y a d'autres jeunes femmes encore qui ont un hymen qui est très élastique et donc il va se détendre tranquillement et il va pas saigner ni faire mal. Donc c'est quand même important de dire ça.
Et cela concerne beaucoup de femmes ?
Oui, ça concerne beaucoup de femmes. On estime qu'il y a au moins un tiers des femmes qui ne saignent pas et qui n'ont pas mal la première fois. Donc une jeune femme peut très bien être vierge et ne pas saigner la première fois, ne pas avoir mal du tout pour des raisons anatomiques que je viens de citer. Mais il y a d'autres raisons de pas saigner la première fois. Il n'y a pas que l'anatomie. Il y a aussi des jeunes femmes qui ont utilisé des tampons pendant leurs règles, pas forcément au début, mais qui en ont utilisé, et ça peut élargir le passage de l'hymen. Hein. Et d'ailleurs, moi j'ai assez régulièrement des témoignages de jeunes filles qui me disent « Misère, ça m'a fait vraiment mal quand j'ai mis mon premier tampon. » Et en fait, elles ont peut-être déchiré leur hymen et elles ont peut-être saigné, seulement elles ne s'en sont pas rendues compte puisqu'elles avaient leurs règles hein, si elles mettaient des tampons. Donc, d'autre part, je prends le cas de Constance, elle déclare que son amie et elle pratiquaient quand même des caresses intravaginales avec les doigts, et bien l'hymen a plus déchiré sans forcément faire mal, hein, sans s'en rendre compte. Et donc, il faut savoir qu'un hymen peut ne jamais se déchirer parce qu'il est large ou peut s'être déchiré bien avant sans qu'on s'en rende compte. Et en plus, il peut se déchirer aussi sans saigner. On peut avoir mal et puis parce que ça ne saigne que si la déchirure passe par un petit vaisseau. Donc, il faut arrêter de se dire une femme vierge doit saigner. C'est totalement faux.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. À très bientôt dans Priorité Santé. Et notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe hein, qui chaque jour fabrique et réalise Priorité Santé. À cette Oussamaké, Ophélie Lassen, Didier Bleu et Laurent Hérault avec nous aujourd'hui. Demain, émission spéciale Questions de femmes. On parlera des conflits au travail, à la maison, comment gérer ces conflits, y compris dans le couple, comment prévenir les crises et les tensions afin qu'elles ne se répètent pas. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui a le bon profil pour vous accompagner durant cette année d'excellence. Bonne année!